Radio Scénique, Éric Dauterre, bonjour. Dans notre émission bimensuelle, nous traitons du spectacle vivant et le plus souvent de théâtre. Et des comédiens et comédiennes, on en rencontre très souvent. Alors, quand il nous a été donné l'occasion de rencontrer celle qui foule les planches depuis 8 décennies, oui, vous avez bien entendu 8 décennies, eh bien on a sauté sur l'occasion. La dame s'appelle Judith Magre et vous allez l'entendre, malgré un âge fort raisonnable qu'elle sera la seule à révéler lors de cette interview, elle continue d'être sur scène pour lire les poèmes de son cher Aragon sur la scène de son cher Poche Montparnasse. Dire qu'il a été facile de discuter avec elle est bien en dessous de la vérité, elle est accueillante et charmante. Et les valeurs qu'elle professe, d'amitié, d'affection et d'amour, elle a permis au modeste journaliste que je suis d'en bénéficier. Mais on n'habite pas impunément la peau des autres depuis si longtemps sans qu'il vous en reste un petit quelque chose de mystère. Même si elle a répondu de bonne grâce à nos questions, Judith Magre reste fidèle à sa ligne qu'elle exprimait à nos confrères il y a quelques années. « Je raconte des petits souvenirs, disait-elle, mais les choses importantes, je ne les révélerai à personne. » Alors même si donc elle ne nous a raconté que de petits souvenirs, c'est qu'était avec elle de tout un pan de la vie intellectuelle et artistique qui a défilé à la fin... Toute la vie intellectuelle et artistique des années 40, pardon, qui a défilé avec elle. La jeune Simone, comme elle se prénomme alors, est issue d'une famille d'industriels de la Haute-Marne et elle se rend à Paris. Elle s'inscrit en philosophie à la Sorbonne, comme ça, sur un coup de tête. Et le soir, elle fait le mur. Judith Magre, telle qu'elle deviendra en 1953, rencontre tout ce que Paris, artistique et bohème, tout ce que le Paris de ces années-là rassemble de talents sur le minuscule territoire entre Saint-Germain-des-Prés et Montparnasse. Elle fait ainsi la connaissance de Man Ray et Max Ernst, Roberto Matta, et elle mange des pâtes avec Giacometti et discute entre femmes avec Simone de Beauvoir. Du chat, elle en a les yeux et parfois la patte, qu'elle dégaine sans cependant sortir les griffes. Pour cette dernière émission de l'année, c'est avec elle que nous avons voulu la clore. Comme un cadeau au pied du sapin, nous vous livrons ses mots, son rire et sa malice. Pascal Dutertre, notre chroniqueur, a bien voulu céder un peu de son temps pour que nous écoutions cette grande dame d'hier et d'aujourd'hui. Judith Magre est donc dans notre émission du jour. C'est elle, notre programme. Alors, baissez les lumières et éteignez vos portables. Voici Radio Scénique, 23e édition.
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre.
Nous voici dans le Marais où Judith Magre a élu domicile. Sur sa porte, il y a encore son nom de femme mariée, Judith Lanzmann. Nous sommes le vendredi 5 décembre 2025, en début d'après-midi. Judith Magre nous accueille avec chaleur et sourire, mais bien vite, elle prend les rênes de l'entretien. Son naturel et sa malice désarçonnent un peu l'intervieweur, à tel point que ses 80 ans de carrière sur scène deviennent rapidement 70. Comme Judith Magre n'est pas à cheval sur les détails de date et de fait, on va revenir régulièrement en cours d'entretien pour apporter quelques précisions. Rendez-vous donc avec cette comédienne pour qui le théâtre est tout, et pas tant que ça non plus. On devine son regard sous ses lunettes fumées et on lui tend le micro d'Aligre FM.
Judith Magre, bonjour. Pardon, excusez-moi, je vais être obligé de m'approcher un tout petit peu plus.
Je n'ai pas peur.
Un petit peu, si vous me regardez comme ça avec... Votre regard terrible.
Mais non, mais je suis hyper impressionné, c'est horrible.
Pourquoi donc ?
Parce que c'est vous.
Parce que je suis une vieille ?
Non, c'est parce que c'est vous.
Eh bien, franchement, vous êtes impressionnable facilement.
Sûrement.
Ben oui, la preuve.
Vous ne cherchez pas à impressionner ? Quand vous montez sur scène, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de vos envies, ça, d'impressionner ?
Ben, quand je suis sur scène, quand je monte sur scène, c'est mon métier... Alors, qu'est-ce qu'on raconte ? Ben, quand je suis sur scène, écoutez, ça fait combien de temps ? 70 ans que je fais ça. Ça me fout toujours un peu le trac. Enfin, ça dépend. Par exemple, en ce moment, je joue pas une pièce, je dis des poèmes. Je suis avec Eric Nolot, qui est un ami, un être absolument merveilleux, exceptionnel, adorable. Donc, enfin, de toute façon, chaque fois que j'ai fait quelque chose, je n'ai jamais fait quelque chose qui ne me plaisait pas. J'ai jamais accepté de travailler avec quelqu'un que je n'aimais pas. Et comme ça, ben, ça a été bien.
Donc on se voit pour une double raison. Vos 70 ans de... Je crois carrière, c'est un mot que vous n'aimez pas.
Hein. Bon, écoutez, je vais avoir 100 ans. J'en ai 99. Et j'ai commencé à 18 ans. Alors, c'est pas difficile de faire le calcul. Hein.
Alors, commençons par le commencement. Vous commencez à 18 ans. Vous étiez d'une famille, vous étiez neuf à la maison, je crois, sept frères et sœurs, les deux parents, et ça chantait, ça dansait.
Oui, ça chantait, il y avait les grands-parents. En fait, moi, j'ai une famille absolument merveilleuse. Parents, grands-parents, beaux, charmants, intelligents, enfin, et tous mes frères et sœurs, et mes petits-neveux qui viennent me voir d'ailleurs ici souvent, sont tous plus beaux, intelligents et charmants les uns que les autres. J'ai beaucoup de chance. Ils sont très gentils de venir me voir.
Et cette famille-là, ça faisait en sorte que vous sentiez la possibilité de devenir comédienne ou ça ne vous passait même pas par l'esprit?
Ça s'est fait comme ça, absolument comme ça. Moi, j'ai toujours fait les trucs, tout à coup, je dis, ah tiens, je vais faire ça. Bon, voilà, et je le fais. Et ça ne plaisait pas beaucoup à mes parents, mais ils ne m'ont jamais rien dit, ils sont venus me voir au théâtre. C'était des gens très intelligents et très indulgents. Et qui s'aimaient beaucoup et qui aimaient beaucoup leurs enfants. Alors, tout s'est bien passé, quoi.
Justement, on va revenir au commencement. Comment ça commence, le début de cette carrière de 70 ans, les premiers rôles, c'est quoi?
Comment ça commence? Eh bien, un jour, j'ai vu dans Match une photo de René Simon entourée de très belles filles. Moi, je me trouvais très moche. Je me suis dit, peut-être que si je vais chez lui, ça va... Il va m'embellir. Je suis allée chez René Simon, qui a été tout de suite extrêmement gentil avec moi, qui m'a donné... Je faisais pas grand-chose à ses cours. Il me disait, ça n'a pas d'importance, écoute-moi, et puis tu feras ce que tu voudras. C'est lui qui m'a fourni mon premier rôle. Et ça a été, pour moi, quelqu'un d'absolument merveilleux.
Alors René Simon, c'était un grand pédagogue du théâtre?
Écoutez, pédagogue, peut-être qu'il a été pédagogue avec les uns, avec moi. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire qu'être pédagogue au théâtre, d'être professeur de théâtre. Là, il me disait, arrête d'être conne, arrête de trembler, monte sur scène, apprends bien tes textes, tu es une cruche, mais tu verras, ça marchera, tu verras. Voilà, ça s'est bien passé.
C'était pas très encourageant, ça, quand même, t'es une cruche, t'es conne.
Oh, la façon dont il le disait, c'était plutôt un tendre compliment.
La première fois que vous êtes monté sur scène devant un public?
La première fois que je suis monté sur scène, j'ai fait un faux pas, j'avais un très joli petit costume avec une ombrelle, un chapeau. J'ai fait un vol plané, je suis passé à plat ventre par terre, j'ai perdu le chapeau, j'ai perdu l'ombrelle, je me suis dit... Est-ce que j'y suis, j'y reste ou est-ce que je me redresse? Je me suis redressé, j'ai ramassé le chapeau, j'ai ramassé l'ombrelle et puis j'ai continué la pièce. Et voilà.
Vous êtes immédiatement bien senti sur scène, une scène que vous n'avez jamais quittée pendant 70 ans?
C'est-à-dire que bien senti, comme je pense dans tous les moments de la vie, on se sent bien, on se sent mal, ça dépend aussi comment est votre vie privée au même moment. Mais en tout cas, je ne savais rien faire d'autre. Je n'étais pas doué pour la mécanique, pour les papiers, pour les tout ça. Quand j'étais petite, je dessinais très bien, mais enfin, je n'avais pas une vocation de peintre. Je jouais bien du piano, mais je ne me sentais pas devenir une grande pianiste. Alors, le théâtre, c'est fait pour ceux qui ne savent rien faire. Donc, ne sachant rien faire, j'ai fait du théâtre.
C'est comme ça que vous imaginez quelqu'un qui ne sait rien faire et qui a réussi?
Moi, je ne me mets pas à la place des autres, je me mets à ma place. Je ne savais rien faire. J'ai décidé, comme ça, de faire du théâtre. Et puis, il y a eu des gens qui m'ont engagé. Et puis, voilà. Puis, ça m'a plu. Et puis, vous savez, les choses se passent. Moi, dans ma vie, les choses se sont toujours passées. Aussi bien avec mes amoureux qu'avec le théâtre. Sur des coups de cœur, sur des rencontres. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré des gens merveilleux dans ma vie de théâtre. Je sais pas, Barrault, Villard, Wilson, Lavelli, enfin, et puis beaucoup, Robert Rire, Jacques Charon, enfin, etc., plein de gens. Et j'ai toujours aimé les gens avec qui je travaillais. Donc je suis contente d'avoir fait ça.
Vous êtes parti en tournée avec la troupe des Renaud Barrault, hein. Une grande tournée en Amérique du Sud, c'est ça?
Ah ben ça, c'était merveilleux. Et puis alors, moi j'avais à ce moment-là un ami qui était ambassadeur au Brésil, qui nous a reçus, enfin les barons de toute façon en Amérique du Sud étaient reçus comme des rois à Tucumán. C'était une petite ville d'étudiants et ils n'avaient pas pu aller à leur précédente tournée. Il leur avait dit, la prochaine fois que je viens, je viendrai vous voir. On est allé à Tucuban. On était dans un petit avion, mais vraiment un petit avion qui avait servi pendant la guerre. Il y avait des trous partout. Il n'y avait que Madeleine Renaud et moi qui, comme sur le bateau, n'avions pas le mal de mer et là, n'avions pas le mal d'avion. Madeleine, c'était dur comme moi. Et on est arrivé à Tucuban et Barreau a ouvert la porte de l'avion. Tous les étudiants étaient debout, se sont mis à genoux en criant « Vive Barreau !» C'était extraordinaire. Ah non, mais c'était un dieu là-bas. Il y était allé plusieurs fois en tournée, c'était vraiment un dieu.
C'était en quelle année?
Oh, j'en sais rien. Oh, vous avez qu'à chercher dans mon pédigré sur Internet. Parce que moi, alors là, je n'ai moi, j'ai une mémoire visuelle des visages, aucune mémoire des noms. La preuve, c'est que je m'étais trompé dans votre nom après l'avoir lu. Enfin, maintenant, ça y est quand même. Mais peut-être que dans 8 jours... Non, j'oublierai pas. Non, j'oublierai pas parce que maintenant, je connais votre tête. Alors, c'est plus facile de se souvenir du nom des gens quand on connaît leur tête. Si vous n'étiez pas venu, on m'aurait dit, vous m'auriez interviewé au téléphone, j'aurais pas vu votre tête. Bon, ben, ce soir, je vous avais déjà oublié. Là, c'est marqué à tout jamais.
Alors, puisqu'elle nous a invités à aller chercher, voici quelques repères pour situer Judith Magre et ce qu'elle qualifie de pédigré. Elle a son premier rôle en 1947, elle a alors 21 ans. C'était dans une pièce d'Émile Mazot à Innsbruck, dans une petite troupe où il y avait d'ailleurs également Alain Resnais. En 1961-62, elle intègre la compagnie Renaud Barreau, avec qui elle part en tournée, la tournée qu'elle évoquait. Une tournée à Tucumán en Argentine, voilà pour la précision. Jean-Louis Barreau, il la distribuera dans une pièce qui s'appelle Judith, justement, de Jean Giraudeau, au Théâtre de l'Odéon en 61. Elle va ensuite rejoindre le TNP en 1963 sans faire partie de la troupe. Et sa période Lavelli, ce sera au Théâtre de la Colline. Il en est le directeur et il la met en scène dans Geek de Steven Berkoff en 1990. Et c'est là qu'elle obtiendra son premier Molière. Alors du chat, Judith Magre n'a pas que les yeux et les griffes qu'elle sort parfois. Elle en a aussi la souplesse. Elle passe ainsi d'un registre à l'autre, d'un répertoire à l'autre, du public au privé. Et de la vie des critiques, le rôle qui lui colle depuis à la peau, c'est avec Villard qu'elle le trouvera dans « La guerre de Troie n'aura pas lieu » de Jean Giraudoux. C'est dans la cour d'honneur du Palais des Papes en 62. Elle y tient le rôle de Cassandre face à Jean-Louis Trintignant. Mais c'est dans une pièce diffusée à la télé en 1967 qu'on va l'écouter maintenant. Dans cette tragédie, Racine mène le complot politique et amoureux dans l'univers confiné d'un sérail ottoman du XVIIe siècle. La réalisation est signée Michel Mitrani et c'est Daniel Lebrun qui lui donne la réplique.
Tout ce que je vois, que faut-il que je pense ? À me tromper, sont-ils d'intelligence ? Pourquoi ce changement, ce discours, ce départ ? N'ai-je pas même entre eux surpris quelques regards ? Bajazet, interdit. Attalide, étonné. Oh ciel, à cet affront, m'auriez-vous condamné ? De mon aveugle amour, serait-ce là les fruits ? Tant de jours douloureux. Tant d'inquiètes nuits, mes brigues, mes complots, ma trahison fatale, n'aurais-je tout tenté que pour une rivale? Mais peut-être qu'aussi, trop prompt à m'affliger, j'observe de trop près un chagrin passager. J'impute à son amour l'effet de son caprice. N'eût-il pas jusqu'au bout conduit son artifice? Prêt à voir le succès de son déguisement, quoi? Ne pouvait-il pas feindre encore un moment? Non, rassurons-nous, trop d'amour m'intimide. Et pourquoi, dans son cœur, redouter Atalide? Quel serait son dessein? Qu'a-t-elle fait pour lui? Qui de nous deux, enfin, le couronne aujourd'hui?
Des kilomètres nous séparaient. Des kilomètres nous séparaient. J'ai fait les premiers pas, c'est comme ça quand on aime. J'ai fait les premiers pas, c'est comme ça quand on aime. Des kilomètres nous séparaient. Des kilomètres nous séparaient. j'ai fait les premiers pas. C'est comme ça quand on aime. J'ai fait les premiers pas. C'est comme ça quand on aime. J'ai fait tous les pas sauf un. Quelques centimètres, pas même un pas nous séparait. J'ai fait tous les pas sauf un. Quelques centimètres, pas même un pas nous séparait. Et ce pas, le dernier pourtant, il ne le fit pas. Et ce pas, le dernier pourtant, il ne le fit pas. C'est comme ça quand on n'aime 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 pas. J'ai fait tous les pas sauf un. Quelques centimètres, pas même un pas nous séparait. J'ai fait tous les pas sauf un. Quelques centimètres, pas même un pas nous séparait. Et ce pas, le dernier pourtant, il ne le fit pas. Et ce pas, le dernier pourtant, il ne le fit pas. C'est comme ça quand on n'aime 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 pas.
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Ce qui est étonnant avec Judith Magre, c'est sa faculté féline à se glisser d'une pièce à l'autre et d'un répertoire à l'autre. On vient de l'entendre chanter une chanson d'Edith Prestilla, pardon, mise en musique, oulala, par Louis Bessière. C'est un album produit par Jacques Canetti qui date de 1976. On pourrait parler aussi du personnage de Marie Chantal qu'elle interprète en 1955 au cabaret La Fontaine des Quatre Saisons. C'est une jeune bourgeoise un peu niaise dans un rôle écrit par Jacques Chazot. Et c'est avec Guy Bedos. On ne va pas mentionner ici l'ensemble des 100 pièces dans lesquelles Judith Magre a joué, mais parmi les dernières, on peut citer Oscar et la Dame Rose de Eric Emmanuel Schmitt en 2016 et Une vie allemande de Christopher Hampton, une pièce qui raconte les souvenirs de Brunhilde Pommsel, la secrétaire de Goebbels, au ministère de la propagande nazie. Depuis 3 ans, Judith Magre se consacre à la lecture de textes, souvent en duo. Elle est en ce moment au Poche Montparnasse, donc où elle lit Aragon en compagnie d'Éric Nolot. Mais pour l'instant, c'est chez elle, en décembre 2025, que nous retrouvons Judith Magre. On parle de la mémoire. La mémoire au théâtre, c'est quelque chose.
Moi, je n'ai... Moi, j'ai jamais eu beaucoup de mémoire. Mais enfin, quand j'étais en classe, moi, j'ai toujours eu des bonnes notes. J'ai toujours été la première de la classe. Oui, c'est vrai, je dis ça. Je ne me vante pas, c'était comme ça. Bon, mais parce que j'avais la chance aussi d'avoir des parents intelligents, cultivés, qui me faisaient travailler en dehors de l'école. Mais je n'ai pas une mémoire extraordinaire. Je suis obligée de bosser pour apprendre un texte. Moi, je connais par exemple ma grande amie, bon, ça y est, son nom, enfin bref, elle a une mémoire photographique, elle regarde une page, elle la regarde, elle la sait. Moi, c'est pas ça, il faut que je bosse. Mais quand j'étais petite aussi, pour apprendre mes leçons, je dis pas que j'avais besoin de bosser énormément et de suivre sans et haut, mais enfin, il fallait que je fasse un effort quand même.
Est-ce qu'aujourd'hui, après ces 70 ans ininterrompus de scène, il y a des textes qui vous reviennent comme ça, comme des espèces de flash de la mémoire?
Je ne pense jamais à ce que j'ai fait. Jamais, jamais, jamais. Alors évidemment, quand j'ai joué, qu'est-ce que j'ai joué de Racine? J'ai dit des textes de Racine. On apprend ça quand on a 8, 10, 11 ans. Il y a des choses qui me reviennent. Le songe d'Athalie, par exemple. Parce que ça, quand j'étais petite, j'avais appris le songe d'Athalie. J'avais 7, 8 ans parce que je n'avais pas lu tout Athalie, mais le songe. Et je me mettais devant la glace dans la chambre de mes parents. Et je me donnais des sueurs froides en me récitant le songe d'Athalie. Alors quand dernièrement, j'ai dit des textes de Racine, j'ai repensé à tout ça, mais autrement, moi je ne pense pas beaucoup à mon passé.
Aucune mémoire des textes que vous auriez pu jouer, de moments exceptionnels que vous avez vécu sur scène et qui vous reviennent comme ça en mémoire?
Non, jamais. D'abord, je n'y pense pas, et je fais bien de ne pas y penser parce que je ne m'en souviendrai pas. Oui, il y a des choses, par exemple, Baudelaire, c'est des... J'ai fait ça, Baudelaire au Théâtre de Poche, mais comme Baudelaire, ça a été mon poète favori depuis l'âge de 7 ans, 8 ans, donc effectivement, peut-être que je pourrais encore dire des... Mais bon, si j'en ai pas besoin, je vais pas vous réciter du Baudelaire, hein, même si vous me le demandiez très gentiment à genoux.
Je pourrais. Ben ça tombe bien qu'on parle des poètes, parce qu'actuellement, sur la scène du Poche Montparnasse, vous dites les poèmes de quelqu'un qui est non seulement poète, mais qui a été quelqu'un que vous avez connu.
Très bien. J'ai très bien connu Aragon. J'ai connu au départ sa femme et sa triolée parce que je jouais une pièce qui venait de recevoir le prix Lénine. Je devais partir en tournée pour jouer cette pièce. Elsa Triolet recevait chez elle des poètes russes. Moi, j'étais invitée. Je suis allée très souvent chez Elsa Triolet avec ces mêmes poètes russes que j'ai retrouvés dans ma tournée en Russie, qui étaient venus m'accueillir. Là, d'ailleurs, Aragon passait avec le cheveu court, très sombre. Il disait « Bonjour, mesdames ». Et puis, je l'ai retrouvé donc quand il a été question de ce voyage en Russie que j'ai fait avec lui pendant un mois et demi. Ça a été un des moments les plus merveilleux de ma vie.
Dans ce spectacle, vous avez un acolyte qui a de la tendresse et de l'affection pour vous, c'est Éric Nolot. Et Éric Nolot, à un moment, prétend qu'Il n'y a pas d'amour heureux aurait été écrit par Aragon pour vous.
Ah, j'en sais rien. Je ne veux pas le savoir. En tout cas, Éric Nolot est quelqu'un. Il est séduisant, il est intelligent, il est cultivé, il est tendre, il est merveilleux. C'est un bonheur sans pareil de faire ça avec lui.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin, eux qu'on retrouve au soir des armées incertains. Dites ces mots, ma vie, et retenez-vous l'âme, il n'y a pas d'amour.
Après avoir abordé Racine, Baudelaire et Apollinaire, voici que Judith Magre, que nous rencontrons aujourd'hui dans Radio Scénique, voici que Judith Magre aborde Aragon, un poète qu'elle a connu de son vivant. C'est au Théâtre Poche Montparnasse, un petit écrin dans lequel on entretient la mémoire des textes classiques. Assise devant un pupitre, Judith Magre y lit donc des poèmes. Sous les projecteurs, à ses côtés attentifs et bienveillants, il y a Éric Nolot. Alors justement, ce duo, il est conçu comment vous ? Vous êtes la diseuse, la comédienne qui lit ses poèmes et lui, il les remet dans le contexte et puis il blague un peu. C'est quoi son rôle à vos côtés ?
Il parle, Eric est quelqu'un d'extraordinairement cultivé, intelligemment. Et donc, quand je dis un poème, lui fait des commentaires sur Aragon, sur tout ce qui regarde le poème. Enfin, son texte est absolument merveilleux. Et moi, je le regarde avec des yeux éblouis. Et lui, il me calme toujours parce que très gentiment, il me met la main sur l'épaule quand je suis à moi de parler. Et ça me fait très plaisir. Et c'est quelqu'un vraiment que j'admire et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
À vous entendre, on a l'impression que vous passez un instant d'affection avec un ami plus qu'une représentation théâtrale, non ?
Bah, Eric, c'est devenu pour moi un ami. De toute façon, je le connaissais. On s'était rencontrés il y a très longtemps pour des émissions de radio. Enfin, ce n'était pas quelqu'un dont j'ignorais le visage. Mais enfin, je l'ai découvert à ce moment-là, en faisant le truc d'Aragon. Et c'est un bonheur formidable pour moi de le retrouver tous les lundis. Ce matin, il m'a téléphoné pour me dire qu'il préparait un prochain truc avec moi. Je lui ai dit, mais vous, Eric, tout ce que vous voulez. Moi, tout ce qu'il veut.
Il y a Pierre Note qui dit de vous que vous avez toujours deux ou trois projets d'avance.
J'en ai aucun. C'est-à-dire que comme Eric m'a dit qu'il en avait pour moi, eh bien, ça va. Moi, je suis paresseuse, je ne vais pas me fouler puisqu'il en a pour moi.
C'est quoi la scène aujourd'hui pour vous ? Vous l'avez dit vous-même, vous avez 99 ans. C'est quoi la scène aujourd'hui pour vous ?
Comme d'habitude, je vais dans ma loge, je me maquille, je m'habille, je monte en scène, j'entends le brouhaha du public qui arrive, j'ai un petit battement de cœur. Bon, et puis tout à coup, il y a les projos qui s'allument. Si je suis là, c'est pour dire quelque chose. Alors je le dis. Et puis quand ça se termine, je suis contente s'ils ont l'air contents et s'ils applaudissent un peu. Et s'ils ne m'envoient pas des tomates et des ordures à la tête.
Ce qui n'est pas le cas. Vous n'êtes pas dans n'importe quel théâtre. Vous êtes dans le théâtre que Philippe Tesson a créé, qui est aujourd'hui est dirigé par sa fille.
J'ai sa photo, là.
Ah non, j'ai pas vu. Ah oui, la photo de Philippe Tesson qui est entre vos piles de livres, là, voilà. Vous êtes une pensionnaire du théâtre Poche-Montparnasse.
C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'y être engagée une première fois pour un truc de... Bon, et puis avec Philippe, avec toute l'équipe, on s'est très bien entendu. Et j'ai fait d'autres choses de temps en temps. Et puis maintenant, là, ça fait des années que je suis dans ce théâtre, que j'adore tout le monde. J'adore Philippe, ça n'en parlons pas, parce que je pense à lui tout le temps. Enfin bon, Stéphanie, je l'adore. Sylvain, c'est un écrivain et un homme absolument merveilleux. Enfin, moi, je suis très heureuse aux poches. Alors, tant que ça durera, peut-être que j'aurai 100 ans. Ils m'ont dit, quand ils m'ont fait une fête formidable pour mes 99 ans, moi, je ne souhaite pas du tout arriver à 100 ans. J'espère bien claquer avant. Mais enfin, si jamais ça arrivait, je sais qu'ils me feront une grande fête. Et comme je les adore tous, que ce soit les techniciens, Stéphanie, tout le monde, moi, je suis heureuse quand je suis dans ce théâtre.
Si on fait rimer comédienne avec phénomène, ça vous dérange ?
Parce qu'il n'y en a pas tellement qui sont aussi vieilles et qui font le métier depuis si longtemps. Ce n'est pas être phénoménal. Non, je ne vis pas comme un phénomène. Mais si les gens disent « Ah, oh, cette pauvre vieille, elle joue encore, c'est formidable !» Bon, ils racontent ce qu'ils veulent, moi je m'en fous.
Vous ne pensez pas qu'ils viennent aussi vous voir, avoir ces instants d'émotion en lisant ces poèmes superbes ?
Écoutez, quand on vient au théâtre, c'est parce qu'on a envie d'écouter ce qui va se dire. Alors, là pour le moment, je dis des textes d'Aragon. Si les gens aiment Aragon, ils viennent au moins autant pour Aragon et pour Eric que pour moi. Là, ça fait un trio fatal.
On a essayé de faire des recherches sur vous, d'essayer de savoir qui vous étiez. Vous êtes un peu énigmatique, on vous compare à une très belle femme énigmatique. Et on est allé puiser dans un ouvrage que vous connaissez, dans une pièce que vous connaissez, qui s'appelle Une actrice, que vous aviez jouée il y a de ça 7 ans, une pièce de Philippe Mignana, que vous aviez jouée avec Pierre Note. Qu'est-ce qu'elle dit de vous, cette pièce ? Parce que finalement, c'est autobiographique, ça ressemble à quoi, cette pièce ?
Non, pas du tout, enfin... Philippe Mignana, avec qui j'ai fait des tas de pièces, qui est resté toujours un ami. On se téléphone, on s'aime beaucoup. Et Pierre Note aussi est un ami. Enfin, moi, je vis dans un bain de tendresse et d'amitié. Alors, c'est pour ça que je suis vieille. Le jour où on me détestera, pouf, je claquerai.
L'amour, l'affection, est-ce que c'est quelque chose qui vous guide? On a l'impression que le théâtre, bah, c'est du bonus finalement par rapport au fait de vivre tout simplement.
Écoutez, moi le théâtre, j'aime ça, je rencontre des gens que j'aime, ceux qui m'engagent, je les aime. J'ai une vie privée qui, jusqu'à présent, me convenait très bien. Donc, bon, mais c'est bien. Non, parce que le théâtre, avec une vie privée de merde, c'est pas drôle. Et la vie privée avec au théâtre, ça marche pas, c'est pas drôle non plus. Il faut que tout aille bien.
Donc là, aujourd'hui, à 99 ans, vous êtes heureuse?
J'ai jamais été heureuse de ma vie. Non, j'ai des moments où je suis contente, heureuse. Non, je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, on est heureux quand on est amoureux. Alors, disons qu'on appelle ça le bonheur. Moi, j'appelle ça le plaisir. J'appelle ça... Moi, je suis contente que je suis au théâtre. Je suis contente quand je suis avec des gens que j'aime. Je suis contente que je suis amoureuse de quelqu'un qui m'aime. Mais enfin, le bonheur, je l'aurai au ciel avec le bon Dieu qui me bénira.
Radio Scénique par Éric Dauter. Le théâtre sur Aligre FM.
Alors Judith Magre n'a aucun intérêt pour le passé et lorsqu'elle se raconte, c'est tout en ellipse. Il semblerait, là on vient de citer une actrice, la pièce de Philippe Mignana que Judith Magre avait jouée en 2018 et on a essayé de démêler le vrai du faux dans cette autofiction. Même lorsque Judith Magre dit dans la pièce « il n'y a que le présent qui m'intéresse », elle parle quand même des artistes et des intellectuels qui l'ont entourée depuis le début de sa carrière. Alors justement, une actrice de Philippe Mignana avec Pierre Note et Judith Magre, extrait.
Qu'est-ce que c'est, Judith, être un acteur, être une actrice?
Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Moi, je ne sais pas ce que c'est. Quand on entre en scène, c'est terrible. Parfois, on a mal aux jambes ou ailleurs. Moi, j'ai souvent mal partout. Et bien, tout à coup, on n'a plus mal. Je n'ai pas un psychanalyste. J'ai horreur des psychanalystes.
Je compte écrire un livre sur vous.
Un livre? Je vous l'interdis. Faire du théâtre, ça vous prend le corps, l'esprit, l'âme. Je sais pas trop ce que c'est que l'âme. Mais je crois que c'est cette force supérieure qui vous fait tenir droit.
La force vitale.
Oui. Apprendre un texte, savoir par cœur ce qu'on dit, pourquoi on le dit, comment on le dit, puis tout oublier au moment où on le dit. C'est être là, puis c'est tout.
On m'a dit, faut pas trop vous intéresser à moi, vous verrez, vous serez déçus. J'imagine que vous êtes toujours le trac.
Toujours atroce.
Vous n'êtes jamais heureuse alors?
Si, je suis dans ma loge.
Vous existez pour les gens, pour les spectateurs, pour moi. Moi, je vous aime.
Ah, tant mieux, tant mieux.
Extrait d'une actrice, la pièce de Philippe Mignana, datant de 2018 avec Pierre Note. Judith Magre est donc notre invitée dans Radio Scénique, loin d'être une blonde évanescente telle qu'elle l'est décrit. Judith Magre est donc une brune piquante dont la voix pointue et acérée, le franc-parler ont ravi metteur en scène et réalisateur de cinéma. Dans les archives, on a retrouvé ce très bel extrait d'un direct télé réalisé par Don Kent et mis en scène par Georges Lavaudant. À l'occasion du cinquantenaire du Festival d'Avignon, une quarantaine d'acteurs et d'actrices de générations et d'inspirations différentes étaient réunis. Il s'agissait de célébrer Jean Villard, le fondateur du festival. Shakespeare, Brecht, Molière, Eliot, Racine, Claudel ont été cités. Et Judith Magre, pour elle, a choisi un extrait de Minetti de Thomas Bernhard. Un extrait qui lui allait si bien. Nous étions en 1996 et ensuite on la retrouvera chez elle en 2025.
Le public est mis à l'épreuve. Le public doit être épouvanté par l'acteur. D'abord, il faut le circonvenir. Et puis il faut l'épouvanter. Les grands acteurs ont toujours épouvanté leur public. D'abord, ils l'ont circonvenu et puis ils l'ont épouvanté.
Dans ce texte de Philippe Mignana qui est paru à l'avant-scène théâtre, il y a un certain nombre de témoignages vous concernant. Alors, inutile de vous dire que c'est plutôt élogieux. Pierre Note dit de vous que vous êtes sensuel, charnel, érotique.
Ah bon ? Moi, je ne commente pas. S'il pense ça, tant mieux. Je trouve que c'est plutôt bien d'être charnel, charmante et érotique dans la vie et de donner cette impression-là plutôt qu'être une dame froide, méchante. Oui, je suis contente.
Il y a une autre remarque, alors là je ne sais plus de qui elle est, que votre voix est étrange, c'est d'une superposition de gouaille et d'élégance. Je crois que c'est Pierre Note qui a dit ça aussi.
Ben, moi je ne comprends pas ce que les gens disent de moi. Pierre Note c'est quelqu'un que j'aime, donc il ne va pas dire sur moi. Il m'aime aussi beaucoup, je l'admire beaucoup. Il ne va pas dire des horreurs sur moi. D'ailleurs, s'il avait dit des horreurs, il ne serait plus mon ami. Or, c'est un ami très très cher que je vois si souvent, qui vient me voir avec sa petite chienne Max. Et c'est toujours un grand bonheur de le voir. Et ça a été un grand bonheur de jouer une pièce de lui. Enfin, moi j'ai toujours eu des rapports formidables avec tous les acteurs avec qui j'ai joué et les auteurs que j'ai interprétés. Je n'ai pas le souci... Ah si, avec un monsieur Bernard Sobel qui est un... Enfin, n'en parlons même pas, c'est le seul dans tous les écrivains, Dieu sait que j'en ai connu, des écrivains, des auteurs, et même des écrivains pas de théâtre. Enfin, puis j'ai connu personnellement beaucoup. Sartre, c'était un ami, je le connaissais très bien. Camus, enfin bon. Et puis, c'est plutôt agréable de rencontrer des gens qui ont du talent, qui ne vous méprisent pas, qui ne vous considèrent pas comme une petite merde. Ben, moi, les gens que j'admire, je ne dis pas qu'ils m'admirent, parce qu'un grand auteur, il n'a pas... Mais enfin, bon, de toute façon, si je risquais d'avoir de mauvais rapports avec quelqu'un, ben, je ne le voyais pas, puis c'est tout. Vous ne vous m'auriez pas plu, ben, je vous disais, ça va, comme ça, prenez la porte.
Comment vous avez choisi tous vos projets? Vous avez joué dans plus de 100 pièces, 50 les films, 70 films, si je ne m'abuse.
Des films, j'en ai fait très peu. Et non, j'ai le souvenir de avec Louis Malle dans Les Amants. Enfin, ce que j'ai fait au théâtre est beaucoup plus important que ce que j'ai fait au cinéma. Mais mes souvenirs au cinéma avec Juliette Vivier, avec qui j'ai joué un truc avec Fernandel et un truc dans Les Bonnes, et qui est devenu un ami extraordinaire et qui a fait pour moi un truc extraordinaire. On jouait à ce moment-là Titus Andronicus avec Laurence Olivier et Vivienne Lee au théâtre de l'Odéon. Moi, j'avais pris, ça m'avait coûté très cher, une place pour aller voir Titus Andronicus. Ce jour-là, je tournais et il y a des heures supplémentaires. Donc Titus Andronicus, allô, du Vivier qui m'aimait bien et trouvait que j'ai... Il me dit, mais tu as fait une tête, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je ne pourrais pas aller voir Titus Andronicus. Il me dit, ma petite, mais je lui dis, je comprends très bien, c'est votre boulot, c'est le mien aussi, il y a des heures supplémentaires, c'est comme ça. Le lendemain, il vient, il me dit, ça t'embête d'aller voir Titus Andronicus avec moi? Il avait dépêché un de ses assistants et nous avait trouvé deux places pour Titus Andronicus. Oh là, alors, c'était un cadeau tellement extraordinaire. Mais du Vivier, c'était un être merveilleux.
Vous êtes une comédienne qui est allée et qui va encore beaucoup voir ses collègues au théâtre?
Non, je suis allée voir Arditi parce qu'on se connaît depuis toujours, que je l'adore, que c'est un grand acteur. Je suis allée voir Catherine Yeagel, c'est ma grande, 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 grande amie et c'est une grande, 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 grande actrice. Et puis, c'est tout ce que j'ai vu ces derniers temps. Mais si tout à coup j'ai un coup de cœur et j'ai envie d'aller voir quelque chose, je vais le voir. Mais pour le moment, je pense à rien.
Alors nous, on va vous amener à penser à ce... Si vous vous retournez, je sais une fois de plus, vous ne pensez pas au passé, mais je vais quand même parler un petit peu du passé. Si vous regardez tous les rôles que vous avez joués, quand vous avez démarré, il y avait ce qu'on appelait des caractères. Hein. Il y avait on attribuait aux jeunes comédiens des rôles spécifiques en fonction de leur physique. Vous étiez quoi? L'amoureuse, la soubrette, la...
Non, René Simon, il disait que j'étais rien, que j'étais une cruche, mais que j'allais faire carrière. Il m'a beaucoup aidé. Et il m'a jamais mis dans les petites ingénues blondes et transparentes, parce que même à 18 ans, je n'avais pas l'air d'une ingénue. J'étais brune et je n'avais pas un physique de petite blonde transparente, charmante. Enfin, non, je n'ai jamais joué des ingénues.
Votre regard acéré, il dicte quelque part le personnage que vous jouez, le regard que vous pouvez avoir, qui est un... un regard vif, un regard un peu pointu, et cette espèce de manière que vous avez dans votre diction d'affirmer les choses, vous pensez que ça a dicté un certain nombre de rôles ?
Moi, je vis toujours à la ville comme à la scène, dans un état d'ignorance totale et d'innocence totale. Je me laisse mener par les gens et les événements, et écartant automatiquement tous les gens qui ne me plaisent pas ou les choses qui ne me plaisent pas. Je n'ai jamais joué de rôle qui me déplaisait, jamais travaillé au théâtre avec quelqu'un qui me déplaisait, jamais vu dans ma vie, je ne me suis jamais forcée pour être amoureuse de quelqu'un sous prétexte qu'il avait certaines qualités qui m'importent peu. Moi, je m'en fous qu'un homme soit riche. Ah, s'il est riche en plus. Mais je n'ai jamais eu d'homme riche dans ma vie. Je n'ai jamais eu de pauvre. Je n'ai jamais été obligée de faire le trottoir par amour pour un homme. Mais enfin, tout allait à peu près normalement.
Vous avez vécu, vous avez même été marié avec un homme qui a marqué l'histoire du cinéma.
Il y a sa photo de bon. On s'aime toujours. Moi, j'étais avec lui quand il est mort. Enfin, il ne m'a jamais. J'ai suivi des trois femmes importantes qu'il a eues dans sa vie, Simone de Beauvoir, une très belle femme que j'ai connue après quand il m'a connue, Andrea, et moi. Et on a été amis. Moi, j'étais près de lui à la fin de sa vie. Enfin, il y a une photo de moi avec lui.
On peut citer son nom.
Ben, Claude Lanzmann. Oui, non, mais on s'est connus à 20 ans. On a eu une histoire fantastique pendant un an. Moi, je suis partie en tournée, il n'a plus entendu parler de moi. La famille m'a haï. Et puis, 10 ans après, il m'a repêché sur le trottoir et c'est reparti. Et on a vécu 10 ans ensemble. On s'est séparés parce que lui, il faisait chaud, il n'était jamais là. Moi, je aussi, j'allais en tournée, etc. On est toujours restés très, 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 très amis. On n'a jamais cessé de se voir. Et j'ai une photo avec lui, enfin, quelque temps avant sa mort, où il me tient dans ses bras. Et c'est quelqu'un de très important, de merveilleux, d'intelligent, de... Enfin, bon, je l'aimais, quoi.
On a l'impression que les choses ont été toujours faciles pour vous. Dans ce que vous dites, j'aimais les gens, donc j'ai travaillé avec eux. La notion de travail, elle apparaît assez peu dans ce que vous dites.
Le travail, c'était d'apprendre un texte. À part ça, si un metteur en scène me donne un rôle, bon, c'est parce que ça lui plaît et moi, ça me plaît qu'il me le propose. Après, le travail, oui, c'est d'apprendre le texte, d'être sur scène, de faire ce qu'il me dit. Puis voilà, quoi. C'est simple.
Ça a l'air simple. Alors, qu'est-ce que vous diriez ? Ça, c'est une question classique qu'on pose à une comédienne avec de l'expérience. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune ou une jeune comédienne qui débute ?
Fais ce qui te plaît. Si ça te plaît, essaie d'être comédienne. Tu verras que ce n'est pas si facile. Et si c'est facile, tant mieux. Si ce n'est pas facile, tant pis. Et j'en ai rien à foutre, en fait. Oui, voilà, moi, ça ne me regarde pas. Moi, je n'ai jamais donné de conseils à personne. Je n'ai jamais beaucoup supporté qu'on m'en donne. Si ! J'ai aimé qu'on me donne avec tendresse, avec amour, qu'on me donne, oui, des conseils, mais pas « faut faire ça et il faut faire ça », non. Et moi, une fille qui veut faire du théâtre, qui est jeune, d'abord, je n'en connais pas. Enfin, je veux dire, je n'en connais pas, si, j'en vois sur scène, mais je n'ai pas maintenant d'habits de 18, 20 ans. Puis, si elle veut faire du théâtre, ma fille fait du théâtre, et puis voilà, puis tu verras bien ce qui se passera.
Ce que vous dites, ça veut dire que quand vous avez eu affaire à des metteurs en scène un peu directifs, ça vous a déplu ?
Ça ne m'a pas gêné. Par exemple, Bernard Murat, qui est un homme que j'aime énormément, lui est très. Mais directif, pas tellement dans l'interprétation, mais dans les gestes, dans les. Bon, très bien. Si on aime son metteur en scène, si on a le sentiment que le metteur en scène vous aime bien et qu'il vous a choisi, on fait ce qu'il vous dit de faire et puis voilà.
C'est aussi simple que ça.
Oui. Tout est simple quand c'est fait dans la tendresse, dans l'affection. Puis pourquoi faire des choses avec des gens qui vous déplaisent ou qui vous emmerdent, hein ?
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Oui, pour Radio Scénique, nous sommes allés voir Judith Magre. Judith Magre, 99 ans, donc 80 ans sur scène. En ce beau vendredi du mois de décembre 2025, elle fait rentrer un peu la chaleur de cet automne encore doux en ouvrant la fenêtre de sa petite chambre. L'occasion pour elle de nous raconter comment elle observe avec beaucoup d'intérêt le jeu de séduction des oiseaux sur le rebord de sa fenêtre. Elle en a repéré un qui tournait le dos lorsqu'un second se perchait sur la branche. En revanche, elle accueillait avec plaisir un troisième. Alors est-ce que c'est une sorte de métaphore ? Compte tenu de la malice de la dame, on se le demande. On est toujours avec Judith Magre et ses radios scéniques sur Aligre FM 93.1.
Je regarde les jeux des oiseaux toute la matinée, c'est extraordinaire. Moi, ça m'enchante. Hein. C'est une merveille de regarder tout ça.
On vient d'ouvrir une bouteille de champagne, merci beaucoup. Hein. Donc, on va trinquer ensemble. Le champagne, c'est...
C'est mon nom préféré. D'abord, je suis champenoise. Le champagne qu'on boit ici, c'est celui de la famille. Oui, Thiénot. C'est un très bon champagne. C'est mon neveu chéri et son père et sa mère, enfin, qui ont cette maison-là. Et c'est très bon et ils m'en font profiter et ça me plaît beaucoup.
On vient de parler du nom de Thiénot. Si on parlait du nom de Judith Magre, c'est un nom choisi.
Oui. Je vous en dirai pas plus.
Vous en avez changé deux fois.
Oui.
D'accord.
Vous n'en saurez pas plus.
Vous parliez tout à l'heure des oiseaux. De là où vous êtes, on est aussi à côté d'une école.
Ah oui, piaille.
Vous préférez les oiseaux?
Écoutez, moi je n'ai rien contre les écoliers. De toute façon, même quand ils piaillent, ça ne me dérange pas. Je suis ici. Quelquefois, je les écoute parce que c'est plutôt... Enfin, je m'en fous, à vrai dire. Et ça ne me dérange pas de les entendre piailler pendant une demi-heure quand ils sortent en récréation ou quand ils se baladent dans la cour. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, ça fait un peu d'animation, un peu de gaieté. Bon, je m'en fous, à vrai dire. Je m'en fous des enfants. Moi, j'ai eu plein de frères et sœurs. Je les ai adorés. On a fait toutes les conneries possibles ensemble. On s'est beaucoup aimés. Enfin, bon, ma vie de famille a été formidable. J'avais des parents formidables, des grands-parents formidables, des frères et sœurs formidables. Donc, tout ça a été très heureux. Alors, quand j'entends des gosses, je me dis, j'espère qu'ils sont aussi heureux que moi avec leurs frères et sœurs.
C'est votre vie de famille qui a fait la comédienne que vous êtes aujourd'hui ?
Les familles, on joue contre ou on joue avec. Écoutez, moi, j'avais des parents qui n'ont pas du tout, ça ne leur plaisait pas du tout que je fasse du théâtre. D'ailleurs, je ne leur ai pas dit que j'allais faire du théâtre, puisque j'avais commencé une licence de philosophie que j'ai arrêtée. J'ai décidé comme ça, ils ne le savaient même pas. Moi, j'ai décidé comme ça. Mes parents étaient intelligents, instruits. C'était pas des prix Nobel, mais des gens instruits qui m'ont beaucoup aidé quand j'étais d'ailleurs écolière, étudiante. Non, je ne pense pas que ça leur plaisait tellement que je fasse du théâtre.
Le théâtre, justement, c'est quelque chose d'intellectuel ou c'est physique ?
Quand on fait n'importe quoi, il y a toujours une part de physique et une part de la tête qui marche aussi. Même quand vous venez ici, vous pensez aux questions que vous allez me poser. Et quand vous parlez, ben c'est physique. Et moi, quand je parle aussi. Mais remarquez, je ne pense pas tellement à ce que je vais dire. Mais vous, vous pensez plus aux questions que vous posez que moi aux réponses que je vous fais.
On avait évoqué au début de notre entretien la possibilité que vous auriez de nous lire un des poèmes d'Aragon, parce qu'on va diffuser cette émission 3 jours avant Noël, et on s'est dit qu'une interview de Judith Magre, ce serait un premier cadeau, et qu'un poème d'Aragon éventuellement dit par Judith Magre, ce serait un autre cadeau.
Je n'aime pas les gens qui crachent dans la soupe. Je n'aime pas les gens qui n'ont rien fait parler ou sourire. Je n'aime pas les gens qui lèchent la page des livres sous le prétexte de les tourner. Je n'aime pas les gens qui me demandent où j'ai l'intention de passer la soirée. Je n'aime pas les gens. Je n'aime pas les gens qui pètent, même intellectuellement. Je n'aime pas les gens qui empêchent cela et la buffletterie ou la soutane, les sous le chou, la crotte et l'empressement. Je n'aime pas les gens qui se tripotent en regardant les femmes d'une façon manifeste. Je n'aime pas les gens qui prétendent réglementer ma vie, mon temps, mes goûts, mes écarts de langage, qui, non content de rigoler au premier bafouillement venu d'un homme du monde avec politesse, trouveraient mauvaise la moindre de mes pensées. Je n'aime pas les gens, je vous dis que je n'aime pas les gens. Parce qu'ils sont effroyablement bornés et stupides, parce qu'ils déjeunent et dînent aux heures fixées par leurs parents, parce qu'ils vont au théâtre, à l'école, parce que tous les sentiments imbéciles, le sentiment familial est non seulement le plus répandu, mais le plus révoltant. Et je te baisse et je te tapote, et tout de même, c'est si gentil, les enfants, on a beau dire. Et puis, il faut des mots d'esprit et des farces, apprennent quand il faut une fable à compliment. Parce que moi, je ne suis pas en règle avec le maire et la patrie, que je ne me cache pas de l'horreur qu'ils m'inspirent, parce que je n'aime pas les gens.
Il vous inspire quoi, ce poème ?
Quelquefois, j'aime pas les gens, quelquefois, j'aime bien les gens. Quand vous êtes là, je vous aime bien. Quand il y a des connasses qui passent, quelquefois, je les aime pas. Oui, il m'inspire que tout le monde pourrait dire une chose comme ça.
Et vous l'avez choisi pourquoi, ce poème ?
Parce qu'il me plaît. Moi, ça m'amuse un petit peu d'insulter des gens. Puis c'est pas méchant. Et en même temps, quand il dit « je n'aime pas les gens qui font ci ou ça », bon ben, oui, moi, je suis d'accord avec lui, quoi. Moi, d'une façon générale, c'est pas que j'aime les gens. Enfin, je m'arrange pour ne rencontrer que des gens que j'aime bien. Puis s'il y a des gens que j'aime pas, ben, je passe et puis je dis que je les aime pas, voilà. Et puis, j'ai même pas à donner des raisons.
Judith Magre, on va vous remercier infiniment de nous avoir accueillis. C'est bientôt Noël, on va suggérer aux auditeurs, s'ils veulent vous voir, c'est tous les lundis au théâtre du Poche Montparnasse. Pas de date de fin, vous jouez jusqu'à vos 100 ans.
Oh non, on va s'arrêter parce qu'on a d'autres projets avec Eric Nolot, qui est un être absolument exceptionnel que j'adore. Il est beau, il est intelligent, il est cultivé, il fait comme s'il m'aimait bien. Enfin bon, je suis tellement contente. Et si on a d'autres projets avec lui, ben je serais ravie.
Merci.
fin de cette 23e édition de Radio Scénique, la dernière de l'année. Un grand merci, un immense merci à Judith Magre, notre unique invitée de cette dernière émission de l'année sur Allegre FM. L'interview ne s'est pas du tout déroulée comme nous l'imaginions, et c'est tant mieux. En grande magicienne de la scène et depuis si longtemps, Judith Magre nous a séduits, conquis, perdus et parfois bousculés. Rappelons que Judith Magre est encore et toujours sur scène, une scène qu'elle n'a jamais quittée depuis 80 ans. Si vous voulez la voir, c'est tous les lundis à 19h au théâtre Poche-Montparnasse. Elle y lit des poèmes de Louis Aragon. Le Poche-Montparnasse est un théâtre qu'elle a commencé à fréquenter comme actrice en 2012 et qu'elle retrouve tous les ans depuis. Je n'étais pas seul pour faire cette émission, ma belle équipe était à mes côtés aujourd'hui. Un immense merci à Pierre Demkov qui m'a assisté lors de cette interview. Il a concocté notre programmation musicale, mais c'est aussi Pierre qui a trouvé tous les sons d'archives et les musiques qui environnaient les propos de Judith Magre. Pascal Duterte avait exceptionnellement cédé sa place de chroniqueur pour que nous ayons un peu plus de temps avec la comédienne, mais on le retrouvera à la rentrée. En régie aujourd'hui, il y avait Enrico Mastrogiovanni et René Clancy. Merci infiniment à Jad Jiang qui était à la console. Un grand merci à eux qui ont jonglé entre tous les sons que nous avons mis dans vos oreilles. Enfin, un merci spécial à Julien Wagner, Julien qui nous a permis cette belle rencontre avec l'icône de la scène qu'est Judith Magre. Pour plus d'informations sur notre programme et pour le réécouter, une seule adresse, allegrefm.org, rubrique podcast, émission radio scénique. On se retrouvera le 12 janvier 2026, et oui, ce sera déjà 2026, sur l'antenne d'Allegre FM 93.1 à 10h. On parlera des musiciens classiques sur les scènes de théâtre. D'ici là, allez au spectacle, c'est là qu'est la vie. Mais la vie, elle est aussi au cinéma, et pour vous en parler sur Allegre FM, il y a Vive le cinéma. On retrouvera toute l'équipe à 11h.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.